Bon, bien, bonjour à tous. Merci d'être là en début d'après-midi pour assister à ce débat, des utopiales, et qui va concerner la représentation graphique ou romancée ou par les mots de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et pour m'aider à définir ceci et à vous renseigner, on a fait appel à Sylvie Lenné, qui est professeure d'ingénierie des systèmes d'info et de documentation, qui est surtout novelliste et auteur de nouvelles de science-fiction, et qui a obtenu le prix Imaginaire de la nouvelle en 2007 et le prix Néné en 86 et 2003. Autre personnage, Marc-Antoine Mathieu, auteur de bande dessinée, scénographe, qui fut primé ici aux Utopiales pour la 2,333e, on ne peut pas le prononcer complètement, infini, qui est auteur de séries de science-fiction et surtout de la série de Julius Corentin à Kefak. Alors à Kefak, si on lit droite à gauche, ça fait Kafka. Hein, si je... Donc pour parler de cet infiniment petit, de cet infiniment grand, je vais d'abord donner la parole à Sylvie qui va nous dire à peu près que dans ses nouvelles, de science-fiction, comment elle l'envisage, et surtout elle a peut-être au tout début nous dire pourquoi elle fait des nouvelles de science-fiction.
La science-fiction. Ça marche ? Bon, la science-fiction, parce que j'adore ça, donc ce sera du cul. Des nouvelles, parce que la forme courte, ça permet d'aller droit à l'essentiel et de ne pas se noyer dans un arrière-plan et des détails que personnellement j'ai beaucoup de mal à construire. Donc ça me convient parfaitement, la nouvelle. On parle exactement de ce dont on a envie de parler. On peut être totalement cohérent par rapport au projet qu'on a. En plus, on s'immerge instantanément dans ce qu'on a envie de faire. Et c'était quoi ta dernière question? Ça suffit?
Bon, voilà. Même question pour Marc, comment lui ont peut-être enchaîné sur son album qui s'appelle L'Origine, qui est un Julius Corentin.
Bah ouais, je souscris à ce qu'a dit Sylvie. La bande dessinée, c'est un peu des nouvelles aussi. C'est-à-dire que le genre roman graphique, c'est-à-dire le pavé de 500 pages qui vraiment développe une histoire avec des personnages sur le long cours, est relativement récent. Mais si on comparait le temps de lecture d'une nouvelle avec le temps de lecture du monde dessiné, je pense qu'on arriverait peut-être à peu près au même temps de lecture. Donc dans les deux cas, c'est vrai qu'avec la bande dessinée, on est un peu coincé, on est un peu obligé d'aller à l'essentiel. Et du coup, la bande dessinée, comme les nouvelles de littérature, ont ceci en commun qu'ils n'ont pas vraiment la pression. C'est-à-dire que c'est un genre, des fois un sous-genre, des fois sous-traité ou maltraité. Et ça nous permet finalement d'avoir plus de liberté que dans des genres plus soi-disant plus sérieux, dans lesquels les gens, des fois, sont peut-être plus coincés que nous. Donc c'est des super terrains d'expérimentation. Les amateurs de science-fiction, évidemment, savent quelque chose.
Vous avez à répondre ?
Je le disais en privé avant la table ronde, je le répète en public, pour moi c'est un bonheur immense de participer à cette table ronde qui, à mon avis, nous donne l'occasion de faire une rencontre que je n'aurais jamais eu la chance d'avoir autrement et dont je pressens, mais la table ronde va sans doute le confirmer, qu'elle va mettre en évidence le fait qu'on a des démarches probablement assez similaires, ou en tout cas les mêmes envies, même si on y répond par des voies extrêmement différentes.
Si vous pouviez commencer à envoyer les images. Donc, toi, Sylvie, tu es consacré quand même pas mal à la narration de l'infiniment petit, tu me le disais juste avant la table ronde. Comment as-tu envisagé et construit ta nouvelle qui traite de ce sujet-là?
Alors, je n'y avais pas pensé avant, mais je me suis aperçue, quand j'ai vu le thème du débat, que c'était effectivement une question autour de laquelle j'avais travaillé plusieurs fois, mais qui est intéressante parce qu'il s'agit de représenter quelque chose qui n'est pas directement accessible à nos sens. C'est pas seulement le cas de ce qui est infiniment gris ou un grand ou petit, mais c'est une question plus vaste qui est... moi, personnellement, je la traite sous l'angle comment notre cerveau est-il capable de travailler et de construire du sens sur des choses qui n'arrivent pas de manière évidente par les canaux sensoriels dont nous sommes dotés à la naissance. Ou alors, pour le dire autrement, ce n'est pas des choses qu'on peut voir, l'infiniment petit ou l'infiniment grand, donc il faut retravailler ce que c'est pour le rendre accessible à nos canaux sensoriels, Alors on peut effectivement travailler dessus pour le rendre accessible à travers la vision. Moi, je me suis amusée à d'autres choses. Je me suis vraiment beaucoup amusée en le faisant. J'ai travaillé sur la manière dont on peut représenter l'infiniment petit de manière à ce que ce soit accessible à l'odorat. Donc, si tu acceptes le principe, je lirai un tout petit fragment de texte. Je suis handicapée par rapport à Marc-Antoine qui peut penser. Moi, il faut que je lise. C'est plus long et plus compliqué. Mais donc, par le canal olfactif ou même par l'oreille, par l'écoute. Donc voilà, on peut faire des choses extrêmement amusantes, mais il faut bien trouver une manière de faire en sorte qu'on ait quelque chose de perceptible à capter. Donc voilà, après on travaille sur la métaphore, sur la synesthésie. Je suis une grande fan de synesthésie. On pourra expliquer ce que c'est si c'est pas un concept évident pour tout le monde.
Comment on a les images de Marc qui passent ? Vous pouvez donner un petit exemple de texte, ce que tu voulais dire un petit peu pour illustrer tes paroles.
Je vous propose de lire je vais vous lire le tout début, ce sera très court, d'un texte qui s'appelle Le chemin de la rencontre, qui est dans le recueil Le miroir aux éperlettes, chez ActuSF. Alors je vous donne un peu quand même le cadre général. On a des humains qui débarquent sur une planète sur laquelle deux races extraterrestres vivent en symbiose et communiquent par le biais des odeurs, justement. Mais cette communication qui véhicule à la fois du sens, de l'émotion, des souvenirs, et qui est aussi riche que le langage humain, elle s'exprime à travers des bouffées odorantes que l'on peut lire à différents niveaux. Et ceux qui les reçoivent, la race qui est en communication avec l'autre et qui porte les aptitudes physiques, ça s'appelle les bats, c'est les bâtisseurs, l'un d'entre eux a choisi de restituer tout le bonheur qu'il a dans cette communication en créant des tableaux. Donc voilà le début de l'histoire. La lumière violette de l'après-midi s'infiltrait par les orifices, rampait sur le sol de terre battue, planait paresseusement dans l'air un peu moite, avant de plonger vers la toile pour en éclabousser les couleurs. Freud réfléchit un moment, puis il déposa un halo scintillant autour de la spirale orange de droite. Certaines composantes étaient encore trop peu discernables, en particulier ce qu'il avait interprété comme l'angoisse de la quête et l'incertitude de la remise en question, associée à la joie de la découverte. Les sentiments étaient toujours les plus difficiles à transcrire. Il retourna consulter le modèle, aspirant avec précaution, par sa trompe évasée, quelques-unes des précieuses molécules. Indiscutablement, il avait oublié l'angle aigu de la chaîne CH3COOH, qui revenait cycliquement dans la plupart des polymères, et la note piquante, un peu saugrenue, de la combinaison CACL2, une note d'humour dont il ne décernait pas encore très bien l'objet.
Marc, qu'en penses-tu de... Est-ce que ce texte t'évoque quelques images ?
Oui, ça donne envie d'aller plus loin dans l'histoire. C'est vrai que dans toute sensation, dans toute émotion, il y a évidemment une notion d'infini. C'est-à-dire que le goût, le style, ce par quoi on va appréhender le monde, on ne va jamais jusqu'au bout de ces sensations, de ces impressions, de ces émotions. Donc, de toute façon, dans toute vie, il y a quelque chose d'infini. Et si l'art sur Terre, ici, aujourd'hui, sert à quelque chose, c'est bien, effectivement, pour essayer de dire l'indicible. Et dire l'indicible, c'est aussi forcément pouvoir essayer de dire l'infini. C'est-à-dire que l'infini, c'est quelque chose qui, a priori, les physiciens vous le diront, c'est quelque chose qui est inenvisageable, qui est indicible. Et l'art peut essayer, par des métaphores, par des exemples, par des visions poétiques, essayer de s'en rapprocher. Alors là, bon, là, il y a un peu une image en forme de gag qui est une boucle. C'est quelque chose, donc, pour ceux qui connaissent mon travail, que j'utilise un peu de manière récurrente, on va dire. Parce que dans la boucle, dans l'esprit de respiration et de choses qui... ce côté love groove, on va dire, il y a forcément une notion d'infini. Le Big Crunch et le Big Bang sont aussi une vision, une imagerie possible de quelque chose d'infini. c'est une manière de cerner l'infini, mais c'est, on voit bien que c'est une manière purement gaguesque de représenter l'infini. De toute façon, il faut bien dire que c'est une gageure. Je pense que Sylvie, tu seras un peu d'accord en tant que scientifique. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Je crois que c'est vraiment la question dont on traite. Hein. L'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est très intéressant, mais la question, c'est le non-acceptable, ce qu'on n'arrive même pas à envisager, ni à expliquer, ni à dessiner, ni à raconter, mais comment on peut en parler quand même? On pourrait parler de Dieu, on pourrait parler de l'infini, on pourrait parler de tout ce qui n'est pas suffisamment matériel, ou accessible pour qu'on puisse parler de manière consensuelle, donc il faut inventer.
Dieu, mais à propos de Dieu, toi, tu en as parlé dans un bouquin parce que tu as fait une histoire autour de Dieu, tu l'as représenté finalement. Ce personnage qui n'existe pas, qui par rapport aux religions est un peu compliqué.
Oui, voilà, alors dans Dieu en personne, j'ai essayé de réduire Dieu. Au lecteur de me dire si j'y suis arrivé, mais là encore c'était un peu un gag, le fait de vouloir absolument représenter Dieu et de l'incarner, là aussi c'est une gageure et c'est un prétexte, évidemment c'est un prétexte pour dire plein d'autres choses. De toute façon, à partir du moment où on essaye d'aller du côté de l'infini, c'est de toute façon toujours un prétexte pour dire autre chose évidemment que l'infini. Alors on pourrait montrer, alors bon, ça c'est une vision, on peut peut-être quitter cette boucle là parce que j'ai peur que ça vous lasse, mais on pourrait aller par exemple du côté de la 2,333333e dimension, une autre image, alors là une image d'infini mais qui est un infini qui existe en fait sur Terre, puisque là il s'agit de dimensions fractales. Alors non, c'est pas cette image-là, c'est la 2,333e dimension.
Ouais, celle qui est en couleur.
Ça va venir.
Bah déjà, dans le titre, 2,333e dimension, c'est une division qu'on ne peut pas résoudre.
Voilà, alors c'est un titre impossible à dire, c'est-à-dire c'est 2,333333333 et trois petits points, c'est-à-dire que ça peut durer. Qu'est-ce qu'une fractale? Pour ceux qui ne connaîtraient pas les fractales, c'est une dimension qui se situe entre deux dimensions, on va dire, finies et connues. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous prenez la côte bretonne, si vous faites le tour de la côte bretonne en voiture, vous allez sur votre compteur avoir 700 km, par exemple. Vous êtes qu'un bon, la côte bretonne, la dimension de la côte bretonne, c'est 700 km. Si vous le faites en vélo, vous allez prendre des petits chemins vous allez arriver à 850 km. Si vous faites à pied, vous allez prendre des petits chemins encore plus petits, vous allez faire 1200 km. Si vous êtes un escargot, voilà, vous allez mettre beaucoup plus longtemps, mais vous allez aussi faire beaucoup plus de kilomètres. Vous allez avoir 1568 km. Hein. Et plus vous êtes petit, et plus vous faites chaque infractuosité de rocher, et plus vous faites de distance, mais en même temps, vous ne ferez jamais 5 millions de kilomètres non plus. Donc, vous allez avoir une dimension fractale qui tend vers un chiffre de manière infinie, mais qui tend vers un chiffre fini. Le chiffre fractal de la côte bretonne, je ne le connais pas, mais il existe bien. Donc, vous voyez que que l'infini peut aussi être contenu dans une dimension finie. Et la conclusion là-dessus, c'est simplement de dire qu'il y a plusieurs infinis. Il y a beaucoup d'infinis. Et des gens comme Gilles Barbier ou Étienne Klein pourraient dire, mais vous savez, il y a une infinité d'infinis possibles. Donc là, voilà. Alors donc voilà, ça c'est la couverture de la 2,333333e dimension, qui traite un peu les fractales, parce que dans cette bande dessinée-là, je me suis amusé à jouer avec un récit qui joue entre les deux dimensions de la BD, puisque la bande dessinée, c'est un art graphique, donc il y a deux dimensions. Et puis la 3D, puisqu'à un moment donné, on met des lunettes qui font voir les dessins en relief. Donc on a une espèce de relief, mais qui n'est pas un vrai relief, qui est un peu entre les deux. Voilà.
Pour revenir à ce que tu fais dans tes albums, Marc, finalement, dans l'album d'avant, le début de la fin, tu avais fait une construction narrative où c'est un recto verso inversé, finalement. Hein, l'album, il y a une première partie qui se lit comme ça. Après, il faut le retourner pour lire la deuxième partie. Dans le processus, tu as aussi quelque chose qui tend vers l'infini, c'est la spirale. Dans la Q, trois petits points. Là aussi, on part de quelque chose qui part du noir et blanc pour aboutir à la couleur. Et dans le premier, l'origine, là, tu nous mets un trou de matière, quoi. Donc des choses quand même qui sont difficilement définissables et des choses qui sont et qui forcent les, toi et ton éditeur à résoudre des problèmes techniques. Mais ça, c'est anecdotique, quoi. Est-ce que toi aussi, Sylvie, tu te poses des problèmes comme ça quand tu écris des problèmes? Comment je vais écrire ces choses infinies? Je me pose une question. Est-ce que je vais résoudre le problème? Comment tu te poses cette question?
Il y a plusieurs questions là-dedans. La manière dont on a envie de l'aborder et la manière dont on a envie de le partager. Je pense qu'on est probablement dans la même démarche d'avoir envie de mettre le lecteur dans une situation extrêmement active où il construit le sens avec nous. C'est-à-dire que même si on a un projet relativement clair et qu'on sait, nous, à peu près, comment ça marche dans ce qu'on est en train de raconter, on n'a pas forcément le projet de le rendre limpide, transparent et complètement expliqué de A à Z. Donc c'est un double défi et c'est très amusant de travailler sur les deux plans à la fois.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que le but de la littérature, encore une fois, de l'art, c'est de ne pas expliquer, simplement d'ouvrir des portes. Bon, là, on parle d'infini, si on peut donner effectivement à travers des dessins ou des textes ou une musique pour un musicien, si on arrive à donner un peu l'odeur de l'infini et d'aller pour le lecteur d'aller voir un petit peu plus loin, c'est gagné. Moi, j'essaie simplement d'être un médiateur, j'essaie de retranscrire la jubilation finalement que j'ai quand je lis des livres d'astrophysique. C'est ça, humblement, j'essaie de faire ça. Si j'y arrive, c'est parfait.
Et puis je pense qu'on a aussi une démarche assez similaire sur un autre volet. Je regarde cette magnifique image qui est projetée derrière nous et j'y vois à la fois quelque chose d'extrêmement théorique, des spirales, des choses qui sont à la fois parlantes d'un point de vue mathématique, d'un point de vue astrophysique, et en même temps des boîtes de conserve, des choses, des robes de chambre, des objets du quotidien extrêmement prosaïques. Et c'est aussi une opposition sur laquelle j'adore travailler, c'est-à-dire parler de choses extrêmement abstraites, éventuellement mathématiques, complexes, qu'on maîtrise plus ou moins mais qui nous fascinent, mais en parler à travers des détails extrêmement concrets, quotidiens, prosaïques. Toi, tu as des boîtes de conserve et moi, j'ai des sensations olfactives qui, finalement, permettent de transmettre l'émotion de la douceur d'un édredon en plume à l'arrivée, ou des choses extrêmement diverses, mais sur plusieurs plans, plusieurs niveaux de signification. Ben, c'est difficile de parler de tout ça d'une manière non abstraite,
mais c'est l'exercice pratique.
Non, mais le fait d'y arriver, je crois que les productions que l'on fait ont aussi pour objet de faire autre chose que de l'abstrait, en incarnant dans des images ou dans des explications sur des choses extrêmement terre à terre.
Oui, tout à fait.
Donc, sur ces représentations, donc toi, quand tu conçois une image, finalement, si tu vas dans tes BD, il y a des choses que tu vas chercher l'infiniment grand, l'infiniment petit. Comment tu essayes de le rendre concret à l'œil ou tout ça? Comment tu distilles les images? Que vas-tu chercher? Quel modèle tu vas prendre?
Je pense que c'est... La bande dessinée n'étant pas de l'illustration, n'étant pas proprement parlé du graphic design... Je pense que les concepts qui peuvent passer ou les histoires qui peuvent passer dans la bande dessinée ont quelque chose à voir avec le temps. Et moi, mes bandes dessinées, j'essaie de construire des systèmes. Je me suis aperçu avec le temps que ce qui m'intéressait, c'était de développer des systèmes plus que des personnages. Je ne le savais pas au début. Hein, c'est un peu comme ce que dit Soulage, c'est ce que je fais qui me montre ce que je cherche. Je m'aperçois qu'au bout de 20 ans, finalement, j'ai plutôt fait des systèmes et ces systèmes sont des vecteurs de nouveaux champs d'exploration. Alors à la fois pour moi, évidemment, en tant qu'expérimentateur et créateur de bande dessinée, mais j'aime à le croire aussi pour le lecteur qui va peut-être expérimenter des choses sur le regard. Donc en général, je ne pense pas que je représente l'infini, par exemple, mais j'essaye simplement de l'évoquer, de le suggérer à travers des concepts un peu fluctuants. Bon là, c'est difficile d'en parler plus concrètement, il faut lire peut-être les bandes dessinées. Mais Il y a quand même une fois où j'ai pu montrer un peu de l'infini, hormis cette image-là, où évidemment, là, on va vers un espèce d'épicentre galactique qui, selon beaucoup d'astrophysiciens, renferme à des trous noirs hyper massifs, c'est-à-dire des espèces de singularités qui avalent tout, même la lumière. Donc voilà. Mais sinon, si on peut montrer les dernières images de 3 secondes maintenant, on pourra là avoir une représentation. Alors là, pour le coup, graphique, une évocation d'un infini possible. Alors voilà. Alors ça, c'est donc ces 3 secondes, c'est les dernières pages de 3 secondes qui jouent sur des. C'est un zoom qui dure sur 60 pages, et à la fin. Donc si on peut aller à la page suivante, voilà. Le regard, donc le photon que le regard chevauche, se coince entre deux miroirs qui se font face. Et donc on peut aller à la, voilà, donc on peut aller à la page suivante. Et voilà. Et donc, voilà une vision pour moi de l'infini, une vision à la fois poétique et graphique. Un photon qui est piégé comme ça entre deux miroirs. On a du vide. On a du vide. Alors on peut imaginer que si les deux miroirs sont effectivement parallèles d'une manière absolue, on se retrouve dans un vide qui coince à la fois pour le lecteur là, le regard et en même temps le photon. Donc voilà, on peut avoir là aussi autre vision un peu gaguesque de ce que peut être le vide ou l'infini. Donc là, c'est une tentative clairement de représenter graphiquement un concept d'infini.
Merci beaucoup. Et toi, Sylvie, donc tu en parlais tout à l'heure que tu utilisais la métaphore et la synesthésie.
La synesthésie.
Nous expliquer un peu qu'est-ce que la synesthésie par rapport est importante dans ton travail d'écriture, justement pour représenter ces molécules, pour représenter ces choses qui sont, on ne peut pas dire, grandes, mais difficilement perceptibles.
La synesthésie, pour les médecins, pour les cliniciens, ça peut être une forme de désordre mental. C'est le genre de sensation qui fait que, par exemple, quand on voit une image, on sent une odeur particulière, ou une couleur, on peut évoquer une odeur, une sensation de toucher. Peut renvoyer, elle, à une couleur. Enfin, c'est le fait de confondre les registres sensoriels et de passer de l'un à l'autre. Et comme je pense qu'on est obligé, pour écrire, de travailler beaucoup sur la métaphore, ben moi j'aime bien jouer avec les métaphores qui font passer de sensations visuelles à des sensations tactiles, de sensations tactiles à des sensations olfactives ou au registre du goût. Ça donne des possibilités de création très intéressantes. Je peux dire un mot sur une autre nouvelle que j'ai écrite qui jouait aussi là-dessus, qui s'appelle Définissez priorité et qui est dans Espace insécable. Dans cette nouvelle, le défi qui se pose aux hommes qui viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle planète extrêmement lointaine et d'aller jusqu'à cette planète et d'essayer d'en récolter un maximum d'informations, sachant que toute trace de vie a disparu à la surface de cette planète et que la seule chose qui reste, ce sont c'est du sable, des particules de sable, tout a disparu, les siècles, les millénaires qui ont passé depuis que la civilisation et les extraterrestres humidés n'a laissé que de minuscules des grains de sable. Et il faut exploiter ces grains de sable et essayer d'en tirer un maximum d'informations sur les êtres qui vivaient là, la civilisation qu'ils avaient construite et leur histoire. Et j'ai développé toute une métaphore finalement, enfin, au travers des instruments de lecture qui, d'une part, analyse la texture, le poids, tout un tas de caractéristiques physiques des particules, mais en même temps, toute la question que se posent les scientifiques qui sont les principaux protagonistes de mon histoire, c'est comment faire pour construire des appareils qui donnent à lire de manière rapide et simple aux gens qui vont les utiliser. Les informations qu'on est capable de construire, mais qu'on ne sait pas comment raconter à leurs utilisateurs. Donc voilà, ils finissent par se dire on essaie de restituer une trame temporelle. On n'arrivera pas à le faire rien qu'avec de l'image ou avec quelque chose qui est statique. Il faut donc utiliser un procédé dynamique et choisissent une trame musicale finalement qui va véhiculer des séquences d'événements. Je vais lire un tout petit bout, si j'arrive à tenir le micro, trouver la bonne page. Où ça commence? Aïda pouvait maintenant produire une image qui restituait la texture, l'agencement et le modelé des grains, la température et la pression des couches de sable. L'image était belle, troublante, il était assez facile d'apprendre à la vue. Mais à l'image s'associait, avec la nouvelle nanomachine, un murmure traversé de rides et de soupirs. Ce n'était pas tout à fait de la musique, c'était plutôt du bruitage mélodieux. C'était la musique des siècles, traversée de craquements et de grésillements, ponctuée par des pas légers ou par le vague murmure de voix inaudibles. Elle n'avait pas fait beaucoup d'essais depuis sa nanogreffe la veille. Elle avait longtemps observé le vieux fauteuil avachi dans son séjour. Elle avait distinctement entendu les lourds postérieurs fichuter, ceux qui se coulaient avec volupté, et puis aussi les sauts énergiques et rapides, sans doute ceux d'un enfant qui jouait. Les crissements d'ongles sur la coudoir, une fois même peut-être le crissement léger d'un stylo. Elle avait essayé de regarder les gens bien en face aussi, avec insistance. C'était peine perdue. Ça faisait un brouhaha invraisemblable dans le lointain, comme si on était sous l'eau. Et si tout autour de la piscine, il y avait un orchestre symphonique avec une centaine d'invités, riant, piaillant et jacassant, et des bombardements en même temps et des enfants qui pleurent. Ça ne menait à rien. Elle avait eu de meilleurs résultats avec de vieux objets paisibles qui n'avaient pas trop servi. Une vieille cruche qui n'était même plus un vase à fleurs lui avait renvoyé les échos les plus clairs, et jusqu'au ruissellement aigu de l'eau qui coule dans un bassin en cuivre. Voilà, donc passer d'un langage à l'autre, d'un registre à l'autre, une forme d'un niveau de sens à un autre, du sens le plus abstrait au concret.
Marc, si tu veux rebondir.
Oui, l'histoire des grains de sable, alors c'est très rigolo que tu parles de sable, parce que dans le prochain livre de Julius Grant à ACFA, qui s'appellera Le décalage, qui sortira dans quelques semaines, il y a justement un passage où, là aussi, il y a un parfum d'infini qui vient visiter les narines des personnages qui sont perdus dans une espèce de no man's land, une espèce de bouche-trou narratif qui s'appelle le rien. Et à un moment donné, donc, ils s'amusent à... Comme ils n'ont rien à faire, ils ont juste à considérer ce sable et ces grains de sable. Et ils commencent à délirer sur le fait que, bah, oui, il y a beaucoup de grains de sable dans le rien. Il y a 10 puissance 9 grains de sable par mètre cube. Il y en a un qui s'est amusé à compter ça, ce qui fait 10 milliards, en fait. À raison, là. Et voilà. Et donc, l'un des personnages s'aperçoit que... Ah, ce qu'on croyait être un grain de sable n'est pas vraiment un grain de sable. Alors, si on peut passer l'image suivante. Voilà, et là, il réalise que chaque grain de sable est un mot de 26 lettres. Et à chaque fois qu'ils prennent un grain de sable, c'est un mot de 26 lettres. En fait, c'est une. Donc, ils en déduisent que chaque grain de sable est une possibilité d'un agencement de 26 lettres. Et donc, il marche depuis des jours dans ce rien qu'il croyait être du sable, et en fait, ce ne sont que des mots. Alors voilà, c'est une espèce de métaphore un peu lacanienne, sans doute. Mais, il s'amuse évidemment à... Alors, la page suivante, on va s'apercevoir que le scientifique compte... à partir du moment où ils comprennent que c'est des... que chaque grain de sable est une variante possible d'un agencement de 26 lettres, le scientifique en déduit qu'il peut calculer la dimension du rien. Et le rien, il s'imaginait que le rien était infini, en fait, il n'en est rien. Il calcule le nombre de possibilités, et c'est la formule qui est là-haut, vous voyez, c'est 26, c'est la somme de toutes les factorielles de 26, plus factorielles de 25, plus factorielles de 24, ce qui donne un chiffre absolument astronomique. ça donne quelque chose comme 10 puissance 32, 6 multiplié par 10 puissance 32 possibilités. Et donc le scientifique en déduit une dimension du rien, et il arrive sur un espèce de cubage de 100 millions de kilomètres par 100 millions de kilomètres sur 600 kilomètres d'épaisseur. Et donc ça, ce qui est intéressant dans un petit délire comme ça, c'est on peut mettre la page suivante maintenant. C'est simplement de montrer que toutes les possibilités d'un agencement de 26 lettres, si chacune était un grain de sable d'un millimètre cube, on aurait ce volume-là. Donc ça montre un petit peu que des fois, quelque chose de bien fini, puisque là c'est quand même fini, ça a aussi un petit peu à voir avec l'infini.
Ce dont tu viens de me parler, il a fait penser à quelque chose. Je sais pas si tu me rappelles un sketch de DeVos, il parlait du rien, du trois fois rien, du moins que rien, du plus que rien. Est-ce ouais. que tu peux. Tu penses que tu as un rapport avec ça finalement, ou dans la démonstration?
Oui, bien sûr. Ah, oui, j'aime bien jouer aussi avec les mots. Il y a, dans le décalage, d'ailleurs, il y aura des passages évidemment très dévotiens aussi. DeVos. De Vos, alors si on pouvait essayer de... Parce que, attention, il ne faut pas s'écarter du sujet de l'infini. Attention hors sujet. Mais De Vos, effectivement, lui, en fait, il essaye d'épuiser l'infini. C'est-à-dire avec sa logorée qui essaye de cerner, d'épuiser un mot, on voit bien qu'il essaye de coincer l'infini des mots quelque part. Alors, évidemment, il n'y arrive pas et ça lui échappe comme une savonnette. Mais c'est dans cette tentative qu'il est intéressant et qu'il est truculent.
Moi, je trouve qu'on est en plein au cœur de la question de l'émerveillement scientifique, mais dans un domaine où il est assez rare, c'est-à-dire face aux mathématiques pures, à ce qu'il y a de plus abstrait, et c'est un vertige philosophique finalement. Mais face à une approche qui est la plus rationnellement et scientifiquement abstraite,
oui.
J'adore.
Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'à travers une métaphore comme ça, j'essaye aussi de donner ça peut être une métaphore, vous voyez, de la combinatoire de ADN, par exemple, la génétique. On a tous un code génétique bien précis, et jusqu'à la nuit des temps, votre code génétique de chacun de vous est unique. C'est-à-dire que la nature a inventé un système de combinatoire de notre code génétique, hein, de l'ADN, qui est fait de telle sorte que même si l'humanité dure encore 1000 milliards d'années, votre code génétique restera unique. C'est absolument impossible qu'il y ait un code génétique un jour qui soit identique au mien ou identique à chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est simplement pour dire que quand on commence à travailler dans la combinatoire des probabilités, on est dans des chiffres qui ont à voir avec l'infini.
C'est évidemment aussi la bibliothèque de Babel, enfin, c'est la lecture la plus simple.
Bien sûr.
Avec 26, on va directement vers l'alphabet.
Oui, 26, oui, c'est évidemment l'alphabet.
Donc, Marc, toi tu t'attaches à la bande dessinée, mais alors aussi tu as aussi un deuxième camp à Thomas, tu es scénographe. Est-ce que dans ton travail, la scénographie, c'est pas la gestion de la 3D et de la gestion de la 4D? Comment tu conçois justement cet infiniment grand, infiniment petit par rapport à ce type de mise en scène?
La scénographie ou la mise en scène d'espace, c'est un peu différent parce que justement, on est plus dans le concret, on est plutôt dans l'immersion, alors là, pour le coup, sensorielle. Et quand on est dans un espace quel qu'il soit, on sait d'emblée qu'il est fini et qu'il est défini. Donc c'est toujours difficile d'évoquer ou de suggérer l'infini dans des espaces concrets, si ce n'est à travers des miroirs, pour l'avoir utilisé quelques fois en scénographie, ou alors faire le noir. C'est-à-dire que dans les scénographies ou de théâtre ou d'exposition que l'on fait avec l'équipe de Lucilum, souvent on abstrait les limites de l'espace, on fait souvent des fondus au noir, de sorte que le regard puisse se poser sur les objets ou la présentation des œuvres qu'ils ont à proximité, et ces objets et ces focus en fait sur ces objets ne se font souvent d'une manière intéressante que parce que derrière il y a un noir et il y a un fondu au noir. Voilà, mais C'est vrai que dans les scénographies, c'est difficile de, okay, ouais. Ouais, de suggérer un film.
Finalement, oui, quand tu parles de scénographie dans le concret, il revient à ce que tu disais à ton début sur les sensations, sur les sensoriels, finalement, qui est aussi très très important dans cette notion d'infiniment grand, infiniment petit.
Et tout simplement parce que c'est par ce biais-là qu'on communique. Quand on est dans une production artistique, on est dans une recherche de communication avec l'autre, donc il faut bien trouver un canal, après une manière de parler. Donc il y a plein de formes de langage, c'est intéressant, je pense. On essaie de les mélanger, d'inventer de nouveaux langages, mais qui soient. Même les langages, par définition, c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. Ça a une fonction de faciliter la médiation. Et c'est intéressant d'inventer des langages sur lesquels on ne s'est pas mis d'accord avant, mais qu'on essaie de proposer au lecteur, et puis on va voir s'il s'en empare et si ça marche avec lui. C'est très expérimental comme démarche. Enfin, je ne sais pas si tu éprouves le même but que moi, j'imagine que oui, en se demandant à chaque fois si ça va parler, si ça va avoir un sens, si ça va dire quelque chose à celui qui le lit. C'est jamais gagné, et c'est justement dans ce défi-là qu'on a le plus de satisfaction.
Oui, bien sûr.
Donc oui, ça vous force finalement, quand vous voulez aller chercher quelque chose, une notion qui est difficilement perceptible, à trouver des processus narratifs, des processus d'écriture qui font que finalement vous êtes obligé d'inventer quelque chose sous la contrainte.
Ah oui, je pense que ce qui est intéressant dans l'aventure de l'art, c'est simplement l'aventure de l'explorateur. Mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour un scientifique, ça peut être pareil.
C'est pareil pour la science-fiction.
Oui, mais je dirais que c'est même pareil pour un peu tout le monde. À partir du moment où on peut explorer, on peut être boulanger et explorer la pâtisserie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est d'explorer. Pour revenir à la notion d'infini, à partir du moment où on a la posture de l'explorateur, le monde est infini. Enfin, je veux dire, si on a dans l'âme l'attitude exploratrice, on ne se heurte jamais à un mur. Je veux dire, on n'est pas des Truman Show. Quoi. Je veux dire, s'il y a une vérité dans ce film, dans Truman Show, c'est justement de dire, mais vous n'êtes pas des Truman Show. À aucun moment donné, l'horizon va se substituer à un mur peint. Donc, voilà. Alors, nous, en tant que créateurs ou artistes, évidemment qu'on est notre explorateur, mais c'est notre job. Hein. Donc, on est un peu les représentants d'une race un peu particulière, c'est-à-dire les gens qui ont horreur de s'ennuyer. Donc, on a la chance de pouvoir gagner un peu notre vie avec cette peur de surtout pas s'ennuyer. Donc, voilà, l'exploration est forcément quelque chose qui essaye à la fois d'atteindre des limites tout en sachant qu'elles n'existent pas. Ça c'est quelque chose de merveilleux.
Donc par rapport au scientifique qui lui quand même, malgré son travail d'explorateur, son envie d'avancer, se heurte à des contraintes physiques ou des contraintes qu'il ne maîtrise pas tout de suite, qu'il maîtrisera peut-être, qu'il va chercher à maîtriser, vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin que lui et d'inventer quelque chose qui parfois peut se permettre d'être une théorie ou une idée, peut se permettre de se révéler quelque chose, une piste pour eux, quelque chose qui va être vrai après.
Oui, mais le scientifique et l'artiste a ça d'identique, c'est que dans les deux cas, le scientifique sait aussi lui aussi que la connaissance est infinie, comme disait Goethe, avec la connaissance augmente le doute, hein, donc c'est pas mal quand même. Et le scientifique sait très bien qu'il n'arrivera jamais à la vérité. La vérité n'existe pas, maintenant on le sait. Et de la même manière que l'artiste, il sait qu'il est en train d'extruder quelque chose, mais que ce n'est rien en soi. Hein. Je vous rappelle l'anecdote de l'enfant qui dit au sculpteur, qui demande au sculpteur, mais comment tu savais qu'il y avait cette chose-là à l'intérieur du bloc de pierre ? Et le scientifique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va découvrir des choses, mais qui préexistaient avant lui. Je ne suis pas loin de penser que l'artiste est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va découvrir quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Seul travail, c'est d'aiguiser ses outils, les remettre tous les jours un peu en œuvre pour essayer d'extruder la chose qui existe en lui. Je n'ai pas dit qui préexiste, hein, mais qui existe en lui, qui est vivante, hein, évidemment.
Je suis d'accord que la science est quelque chose qui se construit, qui est instable par définition même, ça fait partie de son principe, qui est expérimental, créatif, qui est jouissif de faire de la recherche au sens où on remet tout en question, on joue avec les idées, pour être professionnellement nourri par une activité de chercheur professionnel rémunéré par l'État. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui est extrêmement contraignant, ce n'est pas le fait de la recherche, c'est les formes que doit prendre le résultat de l'activité scientifique. Hein. Des manières de communiquer son travail à ses pairs dans des formes extrêmement convenues, extrêmement contraignantes, dans des supports très précis. Et pour les connaisseurs, si vous n'êtes pas dans des revues de rang A avec le bon facteur d'impact, et si vous ne répondez pas dans les formes qui vont bien aux appels d'offres de JUP, ANR, etc. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le genre. Il y en a dans la salle d'envoi qui connaissent ce genre de torture que nous vivons au quotidien. Mais malheureusement, moi je le regrette beaucoup, le bonheur intellectuel du chercheur, il est de plus en plus affecté par les contraintes qu'on a dans la matérialisation que doit prendre le résultat de notre travail et de nos idées. Enfin, il y a Roland Leroux et Eric Michel qui sont là et qui sont sans doute pas scandalisés par ce que je suis en train de dire. Donc heureusement, enfin moi en ce qui me concerne, la science-fiction, c'est le seul domaine dans lequel je peux choisir les formes dans lesquelles je communique avec une liberté totale. Et ça fait bien longtemps que j'ai perdu ce plaisir-là par la science, alors que j'adore mon travail de chercheur. Mais ça fait longtemps que je n'y ai pas plus les mêmes jours, hélas.
Donc Marc, tu n'as pas toi ces contraintes-là de...
Non, non. On a tous des contraintes. Hein. La seule différence, c'est qu'évidemment les contraintes que j'ai, c'est celles que je me fixe. Dans le cas d'un scientifique, enfin de certains scientifiques, mais c'est le cas aussi encore une fois de tous les secteurs d'activité, c'est que souvent on a des contraintes qui viennent de l'extérieur. Et même si l'art met de contraintes et meurt de liberté, malgré tout, la contrainte peut effectivement devenir frustrante et peut devenir asséchante. Voilà. Ça c'est clair. Mais en même temps, là on voit bien le combat qui s'est généré par le principe de vie, hein, le processus de vie, c'est-à-dire que l'infini contre le fini, c'est-à-dire qu'on est une société, n'est pas une machine à engendrer des doutes sur l'infini. Une société quelle qu'elle soit, c'est un espèce d'énorme système qui tend à prouver que les choses finies sont bien là et qu'elles sont rassurantes. Parce que si ce n'était pas le cas, on commencerait par apprendre aux enfants en primaire ce qu'est un atome, ce qu'est un proton, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On commencerait peut-être par leur apprendre que la matière est faite exclusivement de vide et qu'un photon, c'est une onde, c'est quelque chose. Vous voyez, la matière est quelque chose de très impalpable, de très mystérieux. Mais si vous commencez à dire ça, que le fini c'est fait d'infini et inversement, et que là on rentre dans une espèce de dimension qui va semer un trouble qui est à mon avis contraire au principe de société et contraire au principe de cimenter un groupe d'individus pour qu'il fonctionne. Voilà. Donc là j'aborde le côté politique, l'aspect politique de l'infini, parce qu'il y en a un, l'esthétique de l'infini et l'enseignement de l'infini.
Moi, je vais revenir avec toi à quelque chose d'un petit peu plus moins esthétique et plus prosaïque, finalement. L'arrivée du numérique dans la bande dessinée, pourquoi c'est quelque chose d'important, pas important, parce qu'on a vu le 3 secondes et il y a une version papier. Il y a aussi une lecture qui peut se faire sur ordinateur. Est-ce que toi, dans ton travail, finalement, quand tu as travaillé sur ce livre, ça t'a ouvert des possibilités, ça t'a ouvert des espaces d'avoir le numérique comme corollaire de cette production? Et est-ce que tu penses peut-être que dans l'avenir, tu travailleras directement sur le numérique?
Non, je pense pas que je travaillerai directement sur le numérique, parce que si je fais de la bande dessinée, c'est justement pour m'extraire normalement de l'ordinateur, c'est-à-dire que mes autres casquettes de graphiste scénographe me font passer des heures devant mon Mac, et si je fais de la bande dessinée, c'est justement pour éprouver le plaisir d'avoir la plume qui gratte sur le papier, de tremper, de faire des tâches avec de l'autre outil, etc. Donc l'expérience de 3 secondes, c'est on va dire que c'est de la bande dessinée augmentée, donc je ne sais plus très bien d'ailleurs si c'est de la bande dessinée, parce que ça avait été fait effectivement pour les supports numériques au départ, mais c'était simplement, encore une fois, m'amuser avec un nouveau champ d'expérimentation. J'étais d'ailleurs plus dans la peau d'un architecte que d'un raconteur d'histoire avec 3 secondes, parce que c'est parti d'une idée, d'un concept que j'ai bricolé et qu'au fur et à mesure de sa réalisation, il a fallu que j'échafaude en permanence de manière à ce que ça tienne debout. Donc j'étais pas du tout dans la peau d'un dessinateur. J'ai fait semblant de dessiner, en gros, voilà, pendant 6 mois. Et j'étais plus dans la logique d'essayer de faire en sorte que tout ça tienne debout. Et, voilà. Et évidemment, c'est un livre. Alors, pour revenir à ta question de savoir quelle est l'incidence du numérique et de l'informatique là-dedans, c'est un livre qui n'aurait clairement pas pu être fait sans l'appui de l'ordinateur, à plusieurs points de vue. D'abord, concernant la documentation, j'ai googlisé énormément pour avoir des infos très précises sur un Airbus, sur un bâtiment à Zurich, sur un stade de foot, sur tout un tas de choses. S'il avait fallu que je me documente de cette manière-là avant Google, j'aurais mis 10 ans à faire ce bouquin, parce que j'avais envie que ce soit vraiment, que la véracité soit très présente. Et puis après, à enchâsser des images les unes dans les autres de cette manière-là, c'est pareil, sans l'ordinateur, ça aurait été impossible.
Non, mais ce n'est qu'une facilité d'outil, quoi. Ce n'est pas quelque chose
qui
a joué sur la création elle-même. Quoi.
Forcément que si, ça a forcément une incidence. C'est-à-dire que évidemment qu'on reste créateur et que l'ordinateur est un outil, mais il faut bien comprendre que c'est un outil qui va générer des nouvelles formes de création. Donc il y a une incidence. C'est un aller-retour. Hein. Ça ne va jamais en sens unique, hein, le rapport entre l'homme et son outil.
Donc, eh ben, on va consacrer les dernières minutes qui nous restent à donner la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Je trouve que Marc-Antoine est extrêmement modeste parce que les sites web que l'on peut trouver, qui mettent en valeur son travail, c'est quand même, même si le numérique n'a pas beaucoup contribué à la production, il est très bien exploité pour la mettre à disposition. Il y a des sites interactifs. On dit de la réalité augmentée, oui, c'est la bande dessinée augmentée, avec des possibilités d'interaction entre celui qui consulte et la bande dessinée elle-même, qui sont quand même extrêmement originales et qui apportent beaucoup. Donc, c'est une très belle exploitation du numérique.
Oui, donc Sylvie, tu disais que tu avais beaucoup de textes qui jouaient avec infiniment petit. Pendant la conférence, j'ai réfléchi, j'en ai trouvé un qui joue avec infiniment grand, mais où en fait tu n'y vas pas vraiment. Je pensais à un signe de SETI où il y a tout. Il y a énormément de choses qui tournent autour d'univers virtuel, mais même quand tu fais un univers virtuel, tu restes à un niveau très humain et très centré. Parce qu'il s'appelle. C'est les petits mondes, hein, c'est ça ?
Les petits mondes, oui, tout à fait. Et univers virtuel de Bosch individuel.
Voilà,
c'est-à-dire. Quelques téraoctets.
Toujours centré sur le sujet. Et chez Marc-Antoine Mathieu, je trouve qu'il y a, il y a un truc un peu comme chez Dick. Donc je me demandais déjà si c'était une influence en 2 secondes, vous en avez lu ou pas.
Dick.
Kadic.
Ah, oui, Philippe Kadic.
Non, alors j'ai pas lu Kadic, par contre j'ai failli faire un documentaire sur lui. Ouais, il y a un peu l'usurpation, avec Marc Caro d'ailleurs, là dans les parents.
Mais chez Dick, il va s'apercevoir que toute la réalité, enfin c'est la réalité qui s'effondre, etc.
Le maître du haut château.
Voilà. Alors que chez vous, c'est toujours le bonhomme qui, au fur et à mesure, va s'apercevoir que sa réalité, mais on reste toujours centré, un peu comme chez Sylvie, sur l'individu. Il va pas. Enfin voilà, vous auriez pu prendre un peu de recul et puis voir tout le monde, un peu à la Dark City qui part en vrille, mais c'est toujours centré sur le sujet. C'est un autre point commun entre vous, je trouve aussi. Le microcosme ou le macrocosme, elle peut être envisagée, mais toujours du point de vue de l'individu, quoi, du sujet.
Oui, bah oui, parce que il faut. Il faut qu'il y ait un point d'ancrage, quoi. Vous savez, c'est pour que la glace prenne, il faut qu'il y ait un germe à l'origine. Sinon, vous êtes en surfusion, à vous boire des eaux qui sont à moins 25 degrés ou moins 30 degrés. Tant qu'il n'y a pas un germe, ça ne cristallise pas. Et là, les personnages, le héros ou le non-héros, c'est un peu pareil, servent, voilà, cerne de graines.
J'ai appris récemment que la bulle pourrait se former quand il y a une fissure dans le verre. C'est toujours le petit point où ça approche qui fait que...
Ouais, c'est les bulles de champagne.
Bonjour, moi je me demande monsieur Marc-Antoine Bactier, si vous pensez, si vous êtes confiant en fait que vous arrivez à nous surprendre à l'infini avec vos tomes, et aussi dans l'intimité, est-ce qu'il y a un concept physique ou mathématique ou autre qui vous paraît le Graal à représenter, à systématiser sous forme de bande dessinée ou sous d'autres formes d'ailleurs?
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait d'œuvre. Je pense pas qu'il y ait d'œuvre totale. Ça, c'est pas possible. S'il y a un Graal, c'est l'histoire d'une vie. Donc c'est peut-être l'histoire d'une œuvre qui se fragmente en sous-œuvres. Voilà. Donc si mon boulot a un sens, je pense qu'il aura un sens dans sa globalité. Mais encore une fois, comme tout le monde, je pense que vouloir absolument faire l'œuvre. Vouloir faire le chef-d'œuvre, comme disait Pascal Rabaté, faire la cathédrale de Saint-Loup. oui, pourquoi pas, mais c'est finalement, c'est quelque chose de dérisoire. Mais je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut atteindre, ça bien sûr, et moi aussi. Mais je pense que l'artiste ne sait pas où il se situe. Donc du coup, on est un peu comme des aveugles à tâtons. On sent que voilà, là, il y a une graine qu'on peut faire prendre et ça va donner quelque chose. Et on s'aperçoit au bout du compte que avant, c'était que ça. Et c'est ce qui nous pousse à faire un autre truc après.
Voilà.
Mais je pense qu'il n'y a pas de. On ne peut pas préconcevoir. Encore une fois, c'est vraiment que de l'exploration. Et. Oui,
des
oui,
envies,
bien sûr. Ah oui, non, mais il y a des envies, il y en a plein, mais encore une fois, c'est des envies qui se dessinent et qui se révèlent en même temps qu'on les réalise, en même temps qu'on les fait. Voilà.
À propos d'exploration, est-ce que vous ne cherchez pas à explorer l'infini par peur du néant?
Alors oui. Bien sûr. Ça, oui. Fatalement.
Qui n'a pas peur du néant?
Attends, il y en a une là-bas.
Oui, moi je voulais réagir par rapport à. Vous avez évoqué pas mal de choses, entre autres la synesthésie et les fractales, etc. J'étais en train de penser est-ce qu'il n'y aurait pas une synesthésie intellectuelle où on pourrait faire des liens, non pas entre des émotions, des sensations, mais entre des trucs abstraits, comme certains le font. Enfin, est-ce que je sais pas, est-ce que ça définit l'intelligence? C'est des questions qu'on pose.
Je crois que ça s'appelle la métaphore, hein. quand on n'est pas en train de changer de registre sensoriel. Et effectivement, c'est sans doute une des formes les plus développées de l'intelligence humaine. Je crois que c'est à peu près la seule méthode que l'on puisse utiliser pour fabriquer des choses nouvelles, finalement.
Ouais. Oui, j'en profite pour parler de Francis Maas, parce que voilà quelqu'un qui a fait de la synesthésie l'un des beaux-arts. C'est-à-dire, quand on lit Francis Maas, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande les encyclopédies de Maas, puis Les Deux du Balcon, un auteur encensé par Terry Gilliam, par Spiegelman, donc ça c'est pour je fais la claque pour lui, mais c'est vrai que c'est un auteur qui est trop peu connu, c'est un grand auteur de bande dessinée, et lui justement est à la fois artiste et autiste de telle manière qu'il peut faire des ponts entre des concepts astrophysiques extrêmement ardus et en même temps des histoires, des contes scientifiques qui sont extrêmement jubilatoires à lire. Donc quand on lit Francis Maas, on est à la fois effectivement effrayé par le néant et en même temps extrêmement rassuré par le rire du clown. Et donc c'est voilà un grand artiste et un grand clown.
Une question, Sylvie, une dernière question.
Oui, moi je voulais demander à Marc-Antoine s'il avait travaillé sur une forme particulière d'infini qui est la récursivité, ou si ça l'intéressait.
Alors, non, dis-nous, alors je connais pas ce que c'est que la récursivité.
La récursivité, c'est plutôt un concept informatique qui consiste à résoudre un problème en considérant qu'il a déjà été résolu au niveau inférieur ou au fond en dessous, et en résolvant le problème non pas en décomposant la démarche qui permet d'arriver à la solution, mais en s'appuyant sur le fait qu'on fait confiance au fait que ça a déjà été fait à l'étage inférieur, et qui permet, en allant d'étage en étage, par un procédé de mise en abyme finalement, à résoudre des problèmes complexes d'une manière qui s'apparente un peu à la magie quelque part. Je pense que ça t'intéresserait aussi.
Alors là, j'ai une idée qui me vient à l'idée. Ouais, effectivement, ça pourrait être les plus bérus, quoi.
Oui, un peu.
Est-ce que ça a à voir avec la théorie de l'information ? Est-ce qu'on pourrait le...
Alors, la théorie de l'information, c'est plutôt une théorie du signal, hein. De la quantité d'information transmise. Bon, je sens qu'on va continuer la discussion
après. On peut continuer après. Il va falloir qu'on conclure. Merci à tous, mais on va remercier Sylvie et Marc d'avoir répondu, d'avoir expliqué leur travail. Je vous encourage à découvrir leur travail à trouver, parce que c'est un peu de ce papier, hein, dans toute la librairie. Merci beaucoup.